Vous écoutez, on lit pour vous.
Autochtone, une appellation choisie au pouvoir symbolique. Un texte de Mireille El-Chakar, paru le 26 juillet 2025 dans Le Devoir. Le Tandou ramène dans son sillage la bien-aimée rubrique « Point de langue » avec pour guide la professeure Mireille El-Chakar. La lexicologue québécoise vous invite à penser le français autrement dans une formule à mi-chemin entre l'essai et la vulgarisation scientifique. Le dernier projet artistique qu'aura voulu mener le grand Serge Fiori était la traduction d'un musicien parmi tant d'autres, dans les langues des 11 nations autochtones du Québec. Une perle à ajouter au collier de la réconciliation qui se fabrique depuis quelque temps. C'est également dans un esprit de réconciliation que les appellations générales des peuples autochtones du Canada ont récemment changé. J'étudie ce phénomène depuis quelques années dans divers corpus pour comprendre comment s'opère ce changement et comment il est reçu par les allochtones. Si le mot « indien » persiste dans les textes de loi, entre autres dans la loi sur les Indiens, et dans le vocabulaire administratif, registre des Indiens, Indiens inscrits, on opte plutôt dans la langue générale pour « autochtone », terme qui englobe les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Amérindien vit le même recul. Si on perçoit le caractère erroné d'Indien, Amérindien était une tentative de la part d'universitaires états-uniens, notamment d'anthropologues, de corriger le tir. L'appellation n'a pas été reprise chez nos voisins du Sud, mais s'est bien implantée au Québec. Or, comme le mot « indien », elle est aujourd'hui rejetée parce qu'il s'agit d'exonymes, c'est-à-dire des appellations données par des personnes extérieures au groupe. Les concepts eux-mêmes sont extérieurs aux peuples autochtones. Avant l'arrivée des Européens, il n'y avait pas de nécessité d'avoir une seule appellation qui englobe tous les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, les peuples autochtones demandent qu'on les nomme par le nom précis de la nation dont il est question, ou par « autochtones » ou « Première Nation » si un terme plus général est nécessaire. C'est ce qu'ont, par exemple, exprimé l'ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, et l'animatrice Innu, Mélissa Molène-Dupuis. Ce changement de dénomination s'inscrit dans une stratégie de réappropriation d'un certain pouvoir symbolique par des groupes historiquement dominés, pour reprendre le cadre d'analyse de Pierre Bourdieu. J'ai étudié l'utilisation des diverses appellations dans la presse francophone canadienne. Avant 1980, toutes les appellations sont rares. On parle peu des peuples autochtones. Elles commencent à être employées en 1990. C'est la crise d'Oka. Il faut attendre le milieu des années 2010 pour que leur présence explose dans la presse et qu'on perçoive un changement. Autochtones et Premières Nations s'imposent fortement face à Indiens et Amérindiens. La sociolexicologie nous montre que ces changements sont à mettre en relation avec les événements sociopolitiques de l'heure, particulièrement la Commission de vérité et de réconciliation et le mouvement militant Idle No More. En 2012, le gouvernement fédéral canadien propose un projet de loi Omnibus, C-45, destiné à faire passer du pétrole sous terre par pipeline, en violation d'accords signés avec diverses communautés autochtones à propos de leur territoire et de leur accès à l'eau. Des groupes autochtones, spécialement des femmes, contestent, d'abord dans le Canada anglais, puis au Québec. C'est la naissance de Idle No More, qu'on pourrait traduire par « plus jamais passif ». De 2007 à 2015 se tient la Commission de vérité et réconciliation du Canada, mise sur pied par le gouvernement fédéral pour faire la lumière sur les abus perpétrés dans les pensionnats pour autochtones. Dans la presse, le changement d'appellation fait somme toute peu de vagues. Ce n'est pas le cas partout. Lorsque le ministère de l'Éducation demande de revoir les manuels scolaires du secondaire à la vérité des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, d'aucuns s'insurgent. Or, dans les faits, si certains manuels approuvés par le ministère ont dû être réédités, d'autres utilisaient déjà le vocabulaire privilégié. Les débats furent particulièrement enflammés dans le Wiktionnaire, dictionnaire collaboratif construit sur le même modèle que l'encyclopédie en ligne très connue. Votre humble linguiste a été contacté pour donner un avis. Des contributeurs voulaient renommer la page « Amérindien » pour « Autochtone ». S'en est suivi un long et acrimonieux débat s'échelonnant sur 173 pages entre 30 contributeurs. Pour les partisans du changement, « Amérindien » est une appellation offensante. Ils arguent que les usages ont changé au Canada, et ce, jusqu'au niveau gouvernemental, et appellent à soutenir les peuples autochtones dans leur démarche. Les peuples autochtones exigent, à juste titre, que les non-autochtones commencent à se référer à eux selon leur propre terminologie, ce qui semble juste. Les opposants au changement répliquent qu'Amérindien n'est offensant que pour quelques militants plus radicaux qui le disent très fort. Pour ce camp, il n'y a pas de raison que les Canadiens imposent leur usage du français à l'ensemble des francophones. Ce dernier aspect, lié à la variation de la langue française, est au cœur de l'étude que j'ai réalisée sur l'évolution du traitement de ce champ lexical dans les dictionnaires. Ceux produits en France, le Petit Robert et le Petit Larousse, ne tiennent pas compte de l'évolution de la langue et des sensibilités au Canada, alors que les outils québécois, Usito et le Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française, rendent bien compte de ces changements. Usito a l'avantage d'être produit exclusivement en ligne, ce qui lui permet une plus grande rapidité de réaction, pas besoin d'attendre la publication de la prochaine édition papier, et une contrainte d'espace moins importante, ce qui laisse davantage de place pour les explications. Fait cocasse, alors qu'Amérindien sort tranquillement de l'usage ici, il vient de faire son entrée dans la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française achevé en novembre 2024. Comme quoi, en matière de dictionnaire, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'était « Autochtone », une appellation choisie au pouvoir symbolique. Un texte de Mireille El-Chakar, paru le 26 juillet 2025 dans Le Devoir.
Des lacunes dans l'évaluation de la filière éolienne dans le Bas-Saint-Laurent, dit le BAP. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 8 juillet 2025 dans Le Devoir. Même si le Bas-Saint-Laurent pourrait accueillir un total de près de 800 éoliennes d'ici 10 ans, en plus de nouvelles lignes à haute tension, le gouvernement du Québec n'a jamais cru bon d'évaluer les effets cumulatifs du développement éolien sur ce territoire afin d'y assurer une gestion responsable et durable de la filière. C'est ce que constate le Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP, dans son rapport portant sur le projet éolien de la Madawaska. Ce projet impliquant la construction de 45 éoliennes dans la MRC de Témiscouata est développé par Hydro-Québec, EDF, Renouvelables Canada et l'Alliance de l'énergie de l'Est. Les commissaires du BAP recommandent d'aller de l'avant avec ce nouveau parc éolien, mais ils insistent sur les lacunes en matière d'information concernant les impacts des multiples projets déjà présents dans la région et ceux à venir. L'absence de vue d'ensemble du développement éolien au Bas-Saint-Laurent, particulièrement dans un contexte de multiplication des projets, empêche une évaluation adéquate de leurs effets cumulatifs, notamment en ce qui concerne la capacité de support des écosystèmes, peut-on lire dans leur rapport. La commission d'enquête constate que ni le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ni les municipalités régionales de comté, ni le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs n'ont développé de vision claire du développement éolien au regard de la capacité globale du territoire à supporter ce développement dans la région du Bas-Saint-Laurent, ce qui empêche une évaluation adéquate des effets cumulatifs des projets éoliens dans cette région, affirme le BAP. Or, le développement prévu fera bondir le nombre d'éoliennes au cours de la prochaine décennie. La commission d'enquête constate que le Bas-Saint-Laurent pourrait accueillir jusqu'à 800 éoliennes d'ici 2035 sans qu'aucune limite de nombre d'éoliennes ou de superficie occupée n'ait été établie par les autorités gouvernementales ou régionales concernées. Le rapport souligne que le Bas-Saint-Laurent compte présentement 10 parcs éoliens, pour un total de 482 éoliennes. Les 4 projets de parcs éoliens en cours dans la région représenteraient pour leur part un ajout de 167 éoliennes. Qui plus est, le projet de développement de la zone Wauquasun d'Hydro-Québec en partenariat avec l'Alliance de l'énergie de l'Est en ajouterait environ 150 d'ici 2035 pour un total global de près de 800 éoliennes. De plus, Hydro-Québec projette d'implanter des postes électriques et des lignes à haute tension dans un axe Appalaches-Bas-Saint-Laurent, notamment afin de poursuivre le développement du potentiel éolien dans l'Est du Québec, précise le BAP. Dans ce contexte, l'organisme recommande au gouvernement du Québec de procéder à une évaluation des effets cumulatifs du développement éolien à l'échelle de ce territoire afin d'y assurer une gestion responsable et durable en respect de ses principes du développement durable, protection de l'environnement, préservation de la biodiversité et respect de la capacité de support des écosystèmes. Le rapport du BAP sur le projet éolien de la Madawaska, tout comme ceux qui portent sur d'autres développements prévus de la filière, fait notamment état des impacts potentiels pour des espèces menacées, des cours d'eau, des milieux humides, des écosystèmes forestiers et la préservation des paysages naturels. Dans un récent rapport sur le projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix, le BAP a d'ailleurs souligné que l'évaluation des projets de parcs éoliens à la pièce ne favorise pas une prise en compte adéquate de leurs effets cumulatifs potentiels. Dans le contexte de la transition énergétique en cours, où une intensification du développement de la filière éolienne est planifiée, la commission d'enquête encourage le gouvernement du Québec à se doter d'une vision plus globale et concertée de cette démarche. Est-ce que le gouvernement compte réaliser une étude ou un suivi concernant ces questions soulevées par le BAP? Le plan d'Hydro-Québec d'ici 2035 est clair, on a des besoins énormes et le développement de l'éolien est une opportunité extraordinaire pour le Québec et pour toutes nos régions, en plus d'être essentiel pour atteindre nos cibles énergétiques. Pour cela, il faut tenir compte des réalités régionales. C'est notamment pourquoi nous privilégions une évaluation régionale plutôt qu'un BAP générique que nous avons rendu possible avec le PL 81, fait valoir le cabinet du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Benoît Charrette. Selon ce que le gouvernement Legault a prévu, cette nouvelle procédure d'évaluation régionale est conçue pour planifier le développement d'un secteur d'activité ou d'un territoire donné, ainsi que de déterminer les balises d'acceptabilité environnementale et sociale applicables aux projets et aux activités qui s'y inscrivent ou qui pourraient s'y inscrire. Dans le cas du Bas-Saint-Laurent, le développement de la filière éolienne est toutefois déjà bien avancé et des projets devraient s'ajouter au cours des prochaines années, dont le projet Madawaska. Hydro-Québec prévoit de tripler la production éolienne d'ici 2035. Les projets devraient donc se multiplier sur le territoire québécois. Le rapport du BAP sur le projet éolien de la Madawaska souligne que ce genre de développement de la production énergétique peut représenter une menace supplémentaire pour les populations de chauves-souris, notamment par le fractionnement et la perte d'habitat, mais aussi en raison des collisions. Or, 7 des 8 espèces de chauves-souris présentes au Québec sont déjà classées comme des espèces menacées ou vulnérables au sens de la législation provinciale, et 6 de ces espèces ont été recensées dans la zone d'étude du projet, rappelle le rapport, qui insiste sur l'état critique de plusieurs espèces de chauves-souris au Québec et les menaces supplémentaires constituées par les parcs éoliens. Dans ce contexte, le BAP recommande de mettre en place une mesure généralisée à tous les parcs éoliens pour prévenir la disparition de plusieurs espèces, soit le bridage des éoliennes qui consiste à limiter leur fonctionnement la nuit lors de périodes de faible vent. C'était des lacunes dans l'évaluation de la filière éolienne dans le Bas-Saint-Laurent, dit le BAP. Un texte d'Alexandre Shields paru le 8 juillet 2025 dans Le Devoir.
Pique-niquer dans les règles de l'art, un texte commandité, paru le 2 juillet 2025 dans La Presse. Tout comme l'heure du thé ou la conversation polie à table, un repas al fresco à la plage ou au parc s'apprécie pleinement en maîtrisant certaines règles non écrites. Voici quelques conventions qui, lorsque respectées avec soin, contribuent à l'occupation harmonieuse de l'espace public. Un emplacement respectueux, vous choisirez. Le monde, tout comme les tables à pique-nique et les parasols tiki, appartient à ceux et celles qui se lèvent tôt. À défaut de pouvoir vous approprier un des emplacements prisés, plantez votre drapeau métaphorique à une distance polie des autres groupes et en retrait des espaces sujets au va-et-vient. Une couverture vous étendrait. Cet accessoire indispensable définit l'étendue de votre domaine, vous sert de camp de base et recueille même vos miettes. C'est aussi votre rempart contre le sol humide et les fourmis barbares en quête de victuailles. Choisissez un modèle d'une certaine lourdeur, facile à transporter, mais qui ne vous désertera pas au premier coup de vent. Les règlements locaux en matière d'alcool vous respecterez. Des municipalités comme Montréal permettent la consommation modérée d'alcool en accompagnement d'un repas dans certains parcs où cela est clairement affiché. La plupart des parcs nationaux et régionaux ne l'autorisent que dans des zones spécifiques, telles que les emplacements de camping et les chalets. Certaines plages tolèrent les prêts à boire et la bière en canette. Ce sont surtout les contenants de verre qui posent problème. L'œil sur les petits vous garderez. Les grands espaces sont d'inépuisables sources d'émerveillement, mais aussi de dangers et de conflits potentiels. Veillez à ce que les enfants en bas âge demeurent dans votre champ de vision en tout temps, surtout à proximité d'un plan d'eau. Rappelez-leur l'importance de respecter l'espace personnel des autres et de porter attention à leur environnement. La faune affamée, vous ignorerez. Les canards, écureuils, oies, marmottes et autres créatures à poils et à plumes ont mis des millénaires à perfectionner leurs yeux doux. Bien qu'ils soient adorables, fermez votre cœur et votre sac de chips à leur charme. Leur offrir de la nourriture accroît leur dépendance envers l'humain, perturbe l'équilibre naturel et entretient même des comportements insistants, voire agressifs. La quiétude d'autrui, votre musique sera honorée. Rien de tel que de la musique pour mettre un peu d'ambiance, tant qu'il est bien question d'ambiance et non d'un concert en plein air improvisé. Là où les haut-parleurs portatifs sont permis, ajustez le volume à un niveau respectueux sans imposer vos goûts musicaux aux gens qui recherchent la quiétude, surtout si certaines paroles s'adressent davantage à la clientèle des boîtes de nuit qu'à celle des camps de jour. Ballons et jeux, loin des autres, vous tiendrez. Lancez le disque, bottez le ballon et servez le volant. Cependant, à moins d'être infaillible dans vos prouesses sportives, Gardez en tête que votre projectile pourrait terminer sa trajectoire dans un bol à salade ou en plein milieu d'un visage. Privilégiez les airs dégagés et en retrait des autres lors de vos joutes endiablées. Rien derrière vous ne laisserez. Rangez vos affaires et jetez un dernier coup d'œil derrière, puis un autre. Déposez vos déchets dans les contenants appropriés ou emportez-les avec vous s'il n'y a plus de place. Après votre départ, aucun signe ne devrait trahir votre passage, si ce n'est quelques brins d'herbe aplatis ou des traces de pas dans le sable. C'était « Pique-niquer dans les règles de l'art », un texte commandité paru le 2 juillet 2025 dans la presse.
Un temps pour se couper du monde. Une chronique de José Boileau parue le 25 juin 2025 dans l'actualité. Ah, les vacances! Avec l'espoir de vraiment décrocher d'un monde rendu fou à cause de dirigeants qui ne décrochent pas, eux, de la haine ni de la colère. Il y a longtemps que je n'avais pas autant attendu les vacances. Le terme même ne me satisfait pas. Je me tourne donc vers le petit Robert pour remonter à sa racine. Vacances au singulier qui mène à vacant, puis à vacare, être vide en latin. Et pour mieux cerner mon état d'esprit, j'ajoute cette vieille définition littéraire trouvée sous vacant, absent, en parlant de l'esprit. C'est exactement ce que je recherche. Pas seulement avoir la tête disponible, libre, inoccupée, en répit, au repos, à l'arrêt, toutes caractéristiques que le dictionnaire associe aux mots « vacances » et « vacant ». Je souhaite vraiment atteindre le degré en dessous, que mon cerveau ne retienne rien pendant des jours, qu'il s'éloigne en fait du « vacarme » qui suit le mot « vacant » dans mon édition du Robert. À « vacarme » sont accolés les synonymes « chahut », tumulte, cacophonie, bruit assourdissant. J'entends aussitôt le bruit des bombes, des tirs, des insultes, des cris de peur, des larmes de détresse, tout ce qui caractérise l'actualité depuis des mois et qui ne cesse de s'amplifier. Tournez le dos aux informations, dit-on à ceux dont le moral flanche face au flot continu de nouvelles affligeantes. Merci pour le conseil. Mais il est d'une piètre efficacité quand ne rien manquer est au cœur de votre métier et que la curiosité fait de surcroît partie de votre ADN. Il faut savoir que les vacances, pour moi, ont toujours signifié une pause du travail journalistique, mais jamais une pause médiatique. Au contraire, enfin du temps pour dévorer les dossiers des quotidiens et des magazines, pour savourer les émissions et les balados d'affaires publiques, pour plonger dans des ouvrages qui donnent de nouveaux éclairages sur l'actualité. Mais non merci pour cet été. Je pars me replier sur un monde sans remous où le son le plus dérangeant est celui des tondeuses. Je ferai des casse-têtes en écoutant de vieilles chansons remplies d'optimisme. Je prendrai le temps d'observer les oiseaux et ma nouvelle petite fille. Je me concentrerai sur la cueillette des petits fruits plutôt que des nouvelles qui nous bousculent d'heure en heure. Et je lirai, bien sûr, mais en privilégiant ce qui raconte l'ordinaire, à l'image de ce passionnant essai de l'historienne André Lévesque, intitulé « Les filles de Jeanne, histoire de vies anonymes, 1658-1915 », paru aux éditions du Remue-Ménage. La société est faite des sans-histoire à qui on accorde trop peu d'attention. Je veux m'y arrêter. Dans la même veine, je feuilletterai à nouveau la série de bandes dessinées « Les beaux étés » que les éditions d'Argo, qui la publient, résument très simplement. Cette série ne contient ni bagarres sanguinolentes ni complots internationaux. Tout est dit. On suit tout bonnement une famille belge qui, année après année, part en vacances. C'est tendre, amusant, reposant. Mieux encore, je vais remplacer les essais sur la Deuxième Guerre mondiale, période qui m'a toujours fascinée, par des romans policiers, mon autre passion. Mais pas n'importe lesquels. Ceux venus d'Italie, parce qu'on y prend le temps de manger en décrivant avec soin les plats. À l'aune de ce critère, peut-être que je relirai « Le tablier de sapeur », vieux roman policier français, méconnu et resté sans suite, sur lequel je suis tombée par hasard il y a quelques mois. Tant de douceur pour un polar. Le héros contemple son jardin, le paysage, le village, les décrivant avec des mots choisis. Et pendant des pages et des pages, il cuisine et laisse mitonner, et la marmite chante, et le crime est renvoyé dans les marges. Me voici donc à signer une chronique bien personnelle, loin de sa thématique société. Mais je pressens que mon envie de fuir la rage du monde est partagée. Ce que nous traversons n'a tellement aucun point de comparaison avec ce que j'ai connu de mon vivant. Tiens, voici qu'en fouillant, pour tout à fait autre chose dans les archives de la presse, je tombe sur une chronique du mythique Pierre Foglia. On est au printemps 1985, il rentre d'une balade à vélo en Pennsylvanie à, citation, « parcourir de petit rien en petit rien la médiocrité du royaume réganien ». Fin de citation. Pour reprendre son expression, il y avait autant de connards avant que Ronald Reagan devienne président des États-Unis, mais depuis son élection, il parle plus fort, triomphant. Citation, quelque chose qui pourrit dans la magnificence du printemps. Fin de citation, résume le chroniqueur. Aujourd'hui, reste-t-il même de la magnificence dans le pays de Donald Trump? On ne le saura pas, tant nous avons collectivement perdu l'envie d'aller le vérifier, comme en témoigne la baisse marquée des voyages des Canadiens vers les États-Unis. Mais est-ce que se couper du monde, comme j'entends le faire, c'est laisser tomber les populations d'Ukraine, de Gaza, d'Iran, d'Israël ou les Soudanais qui, aux prises avec une dévastatrice guerre civile, sont abandonnés depuis belle lurette? Question de pure forme, tant notre impuissance citoyenne s'étale jour après jour, en dépit des indignations, pétitions, manifestations, auxquelles s'ajoutent les appels au calme de nombreux leaders politiques. Poutine, Netanyahou, Trump, le Hamas, les Mollahs n'en font qu'à leur tête guerrière, savourant même les dégâts qu'ils causent. Rien ne les arrête. Tous ces hommes n'ont-ils jamais besoin de vacances, de cerveaux vacants, de vacare? Se perdre dans le vide pour laisser les anonymes, les sans-histoire, les ordinaires souffler? Et non, il leur faut être au cœur de l'histoire qu'ils entendent façonner en usant de terreur. Alors, je me justifie en me disant que c'est peut-être une petite résistance que de ne pas les laisser en plus nous empoisonner l'été. On en reparle en nous. C'était « Un temps pour se couper du monde », une chronique de José Boileau, parue le 25 juin 2025 dans « L'actualité ».